Mémoire vive.
Présentée par Christelle Le Polotec
et préparée par Rachel Rimmer. Une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. Bonjour, nous recevons aujourd'hui Paul Rosenberg, le producteur, et Blanche Finger, la réalisatrice avec William Carell, de la série de 8 documentaires jusqu'au dernier, La destruction des Juifs d'Europe, une série soutenue par la Fondation pour la mémoire de la Shoah et qui sera diffusée sur France 2 les 26, 27 janvier et 3 février en première et deuxième partie de soirée. Alors on connaît les documentaires de William Carell, Le monde selon Bush, Au cœur de la Maison Blanche, entre autres. Vous avez réalisé avec lui Blanche Finger en 2012, Album d'Auschwitz, et cette fois-ci vous vous attaquez tous les deux à nouveau à une série monumentale qui emprunte d'ailleurs en partie son titre à la somme de Raoul Hilberg. Vous revenez donc sur le sort des Juifs en Europe depuis l'arrivée d'Hitler au pouvoir en 1933 jusqu'à aujourd'hui. Le but de cette série, on va peut-être commencer par vous Blanche Finger, c'était de montrer le processus de la destruction des Juifs en Europe dans sa globalité, c'est-à-dire à la fois dans sa chronologie et dans sa géographie, en déplaçant à chaque fois le focus depuis les débuts du nazisme dans tous les principaux pays concernés, l'Allemagne, l'Autriche, la Pologne, la France, l'Ukraine, les pays baltes.
Oui, absolument. Et si vous voulez, devant l'ampleur de la tâche, notre réflexion, c'était comment l'aborder. Donc, nous avons choisi l'ordre chronologique, tout simplement, ce qui nous est apparu le plus clair pour faire entendre, surtout aux jeunes générations, et pas du tout aux spécialistes, bien évidemment, ce qu'a été, en reprenant le titre du livre de Hilberg, La destruction des Juifs d'Europe. Et si vous voulez, on a décidé donc de partir de... il fallait une date, et cette date, c'est l'arrivée de Hitler au pouvoir et la discrimination qui va se mettre en place en Allemagne. Et bien évidemment, ce film et cette histoire... Enfin, ce film, pas ce film, mais cette histoire n'aurait pas pu se réaliser, ce massacre absolu, sans le contexte de la guerre. Mais notre propos, c'était d'évoquer la Seconde Guerre mondiale, mais de ne pas quitter ce qu'était notre propos, la destruction des Juifs. Donc c'est pour ça que, si vous voulez, parfois c'est un peu compliqué, parce que nous sommes en Pologne, mais on est en 1940, donc évidemment nous abordons la France. Donc voilà, de temps en temps, le spectateur doit un peu sauter dans l'histoire qui se passe et à des lieux, dans des lieux différents.
D'un pays à l'autre, mais justement c'est ça aussi qui fait l'intérêt de cette série, parce que souvent on a tendance à avoir, et c'est aussi évidemment très intéressant, mais des sujets très anglais, très précis. Là, ça fait vraiment un panorama et on se rend compte comment finalement parallèlement d'un pays à l'autre, la situation évolue.
C'est-à-dire, si vous voulez, de cette discrimination et de mise à l'écart, avec cette invasion en Pologne, où tout est, dans un premier temps, nous a semblé, avec l'aide évidemment des historiens merveilleux que nous avons rencontrés, un peu chaotique et sans préméditation. Et donc nous les avons accompagnés, ils nous ont accompagnés jusqu'au moment où tout devient méthodique. Mmh. Voilà.
C'est ça, sur 8 épisodes, peut-être que vous pourrez nous répondre, Paul Rosenberg, vous avez certainement réfléchi à ça avec William Carell et Blanche Finger. Sur 8 épisodes qui sont diffusés à la télévision en première, en deuxième partie de soirée, comment vous avez réparti finalement, comment vous avez fait le choix de chacun des thèmes qui sont abordés au fur et à mesure?
La chronologie a guidé, je parle sous le contrôle de Blanche bien évidemment, la chronologie a guidé le choix des thèmes. Ça veut dire qu'elle s'imposait aussi par les faits que nous dictait la chronologie. Ça veut dire qu'en 1939, c'est l'invasion de la Pologne. Donc ça nous permet à un moment où la 40, c'est la France. À chaque fois, la chronologie avant-guerre, comme celle de la guerre, nous permettait d'entrer avec ou sans Wagner dans les pays concernés. Et donc d'évoquer l'histoire des Juifs de ces pays, premièrement. Deuxièmement, dans ce cas-là, Blanche et William ne restaient pas sur le pays dans tout l'épisode. L'idée était qu'est-ce que ça provoquait comme résonance dans les pays voisins et dans le comportement des différentes composantes du conflit. Donc à chaque fois, thème, le thème évoqué nous donnait, sans évoqué, raconté par les historiens, documenté par les images d'archives, documenté également par les lieux de tournage que Blanche et William ont tourné, qui étaient des lieux de mémoire ou des lieux incontournables dans cette histoire. Et Blanche l'évoquait, on passait dans un autre pays, à chaque fois que la nécessité historique nous amenait dans ce pays. Je peux le raconter comme ça.
Tu peux.
Il y a une chose qui est aussi très forte. Donc, les deux premiers épisodes sont consacrés à ce qui se passe, on va dire, avant la Shoah, principalement en Allemagne. Et puis, les quatre épisodes suivants sont consacrés à l'extermination des Juifs. Et vous revenez tout d'abord très longuement sur la situation des Juifs sur le front de l'Est, les Einsatzgruppen. C'est une manière aussi de rendre sa place à cet aspect de la Shoah qui a peut-être été un peu occulté parce qu'il s'est passé par la suite à Auschwitz, par exemple.
Oui, bien sûr. Enfin, de toute façon, c'était un événement d'une ampleur incroyable. Donc, si vous voulez, c'est vrai que nous avons rencontré des historiens comme Sungrao ou d'autres qui ont vraiment travaillé plus spécifiquement sur les Einsatzgruppen, les unités mobiles de tuerie. Et donc, lui nous a plus accompagnés dans notre démarche. Mais si vous voulez, moi, ce que je trouvais important, c'était, et je veux dire que ça a une, à tout moment, ça a une résonance. Pour moi, c'était vraiment les deux premiers épisodes qui racontent la mise à l'écart. Et je veux dire, ça, je pense que c'est quelque chose dont il faut vraiment prendre la mesure. Parce que on ne peut pas dire dans telle société, mais c'est la mise à l'écart et le premier moment qui va conduire, même s'il n'y a pas encore l'idée même de,
mais pour de moi, l'extermination.
Ça, voilà. Et puis c'est vrai aussi que l'invasion de la Russie, c'est une espèce de liberté totale aux Allemands de massacrer.
Une bestialité, effectivement, qui est...
Je ne sais pas, parce que si vous voyez l'histoire de des chefs des Einsatzgruppen, la plupart ne sont pas des hommes spécialement violents. Je veux dire, leur violence, elle va s'organiser à un certain moment. Enfin, je veux dire, c'est des gens qui adorent la musique, qui sont des hommes cultivés, qui ont des familles. Je veux dire, c'est l'idée de bestialité, je ne crois pas. Il n'y a pas de...
Enfin, cette rencontre aussi avec des populations, vous le montrez très bien, ça, hein, comme le...
Oui, bien sûr, mais eux-mêmes, si vous voulez, il n'y a pas l'idée... Il y a cette espèce de devoir qui doit être accompli. Et accompli au mieux pour satisfaire les autorités supérieures. Donc...
Avec l'idée que tous ces gens-là ont été nourris pendant les années 30... par la propagande adéquate, par les discours des dirigeants nazis, par l'encadrement des organisations nazies de tous les milieux socio-professionnels, de une haine du juif, et aussi, pour les pays de l'Est, de l'anti-bolchevisme. La bestialité, elle rencontre en une seule, pour eux, sur un seul même terrain, les deux ennemis, mais surtout l'ennemi juif, et souvent dans l'imaginaire, dans l'idéologie nazie, le bolchevique, c'est un juif déguisé, c'est un juif. Voilà. Donc la bestialité, comme dit Blanche, oui, elle était monstrueuse. Mais moi, on a mis dans le film, et ce qui est bien, je crois, ce que Blanche et William ont fait, c'est que il y a des différentes familles d'historiens. Ceux qui sont positivistes, d'autres qui sont un peu plus pessimistes, on va dire. Certains considèrent que l'esprit génocidaire était déjà induit.
C'est ma prochaine question. D'accord. C'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est frappant dans le récit, dans la narration. Une remise en cause, finalement, de cette idée qu'on a...
Intentionnaliste.
Voilà, l'idée que la solution finale a été décidée en 1942 à Wannsee. Oui. Et là, vous montrez quelque chose de complètement différent.
C'est-à-dire
quelque
que, chose si vous voulez, on
rentre bien avant.
Oui, bien sûr qu'elle commence bien avant, mais si vous voulez, c'est, disons qu'on a un peu privilégié au fil des rencontres, les fonctionnalistes, c'est-à-dire en fonction des événements, les choses se passent. Elles se passent, c'est vrai, avant Wannsee, puisqu'au moment de Wannsee, on a déjà massacré plus d'un million ou un million. Enfin, je veux dire, les chiffres là ne veulent plus vraiment dire quelque chose de juifs russes. Et c'est à ce moment-là, devant ces méthodes qui étaient pas assez efficaces aux yeux des nazis, que se met en place tout doucement l'idée d'une autre manière de tuer efficacement, et surtout de tuer tous les juifs qui n'avaient pas encore été tués. Mmh. C'est-à-dire, ils avaient entre leurs mains les pays de, comme la Pologne, la Russie, mais ils imaginaient, quand vous voyez la liste de Wannsee, c'est-à-dire qu'ils allaient même en Angleterre. Enfin, il n'y avait plus. C'était tuer le juif, même s'il n'était pas encore dans le.
Sous le contrôle des nazis.
Donc, voilà, c'est vrai que Wannsee, elle pose sur le papier avec l'idée, voilà comment on va procéder. Les trains, l'organisation et d'autres. Nous ne sommes pas rentrés dans tous les détails techniques qui ont été toujours avec le souci de ne pas rentrer dans trop de détails parce que c'était. Il fallait apporter une histoire où les faits principaux étaient là, mais évidemment, nous ne sommes pas dans une bibliothèque, nous n'avons pas le choix d'écrire des milliers de pages comme l'a fait.
Et c'est vrai qu'on met dans le film que Wannsee, c'est une. Pour simplifier, d'une façon très simpliste, c'est une espèce de méga réunion de synthèse, d'étape. Mmh. Ça a tout bien commencé bien avant.
Oui, c'est vrai que bien du avant. Point de vue de l'Ouest, on a l'impression que c'est là que ça se.
Mais
ça
parce que c'est plus rassurant. Enfin, rassurant. C'est-à-dire que de poser une date, Wannsee, mais là, plus les historiens ont en main des documents, plus ils se rendent compte qu'en fin de compte, voilà, Wannsee, voilà ce que c'était. C'était pas. Mmh. C'était pas inintéressant, c'était pas n'importe quoi. Mais ce n'est pas la décision.
La solution finale n'est pas. Ça ne s'est pas décidé à 27.
Elle a été prise bien avant, oui. Que ce soit la Shoah par balle, que ce soit les unités mobiles.
Dès qu'on a commencé, justement, comme le dit Browning, à apporter des camions à gaz qui ont peu fonctionné en URSS, ce n'était pas pratique. Mais l'idée même, tout à coup, de penser à un lieu de mise à mort, et surtout, comme le développe M. Birnbaum, c'est l'idée de déplacer les Juifs au centre de mise à mort.
Alors justement, on va peut-être revenir avec vous sur cet aspect important. Ce sont les intervenants de cette série qui sont prestigieux. Serge Klarsfeld, Annette Viverka, notamment pour la France, mais aussi Yann Kershaw, Amos Oz, Saul Friedlander. Il faut préciser que c'est un casting très international. Comment vous les avez choisis? Comment vous les avez rencontrés?
Un petit peu, enfin par nos lectures d'abord. C'est surtout, ça a été notre choix. Et en plus, et surtout certains qui avaient consacré toute leur vie professionnelle à cette histoire. Donc, si vous voulez, c'était aussi un hommage que nous leur rendions de leur demander de participer à ce travail.
Et pourquoi plus des historiens que des témoins, pardon ?
On évite de dire des spécialistes. Des spécialistes.
En l'occurrence, ce sont des historiens.
Le mot spécialiste est devenu un peu galvaudé.
Et donc oui, pourquoi plutôt des historiens que des témoins?
Les témoins sont très très âgés. Et donc il ne faut pas oublier que les témoins survivants, heureusement, sont des témoins qui avaient 3, 4, 5 ans au moment même des événements. Donc c'est...
C'est très jeune.
Pardon ?
C'est très jeune.
15 ans ?
C'est très jeune, oui.
C'est très jeune. Ah, oui. C'est extrêmement jeune. Donc, si vous voulez, c'était... c'était compliqué de... Ils ne pouvaient pas être témoins... Ils pouvaient être témoins de ce moment terrible qu'ils ont vécu en tant qu'enfants. Et nous... Et donc, c'est pour ça que nous avons privilégié les historiens aussi. Et nous ne voulions pas, si vous voulez, tout à coup faire un entretien comme ça. C'était pas...
Ça n'avait pas de sens.
Ça n'avait pas de sens de tout à coup inviter un témoin. Mais En revanche, ce que nous avons cherché, c'est les journaux, les textes qui ont été écrits par les témoins.
Oui, Victor Klemperer, Primo Levi notamment.
Exactement, et puis surtout les archives Ringelblum dans le ghetto de Varsovie.
J'ai un souvenir où Blanche disait, à une réunion au tout début, ça m'insupporte de donner la voix, la parole qu'aux nazis, qu'à la propagande nazie. Il faut entendre aussi la voix des victimes. Et c'était le choix de Blanche aussi de dire, il faut des textes. Il faut des textes de ces gens-là. Donc comment les faire vivre ? Ils sont déjà, la plupart ne sont plus là. Ceux qui sont là, qui sont encore vivants aujourd'hui, étaient, comme disait Blanche, trop jeunes à l'époque, ou très jeunes à l'époque. Et que les faire vivre, c'est nous faire entendre, montrer des textes que les victimes ont écrites d'une façon ou d'une autre.
La question s'est posée pour les images, en tout cas c'est ce que j'ai lu, vous disiez que c'était difficile, enfin que c'était une des difficultés que vous avez rencontrées, c'est que la plupart des images d'archives viennent de la propagande nazie.
Oui, de toute façon c'était un travail très compliqué et on a tenté toujours de faire intervenir un historien, une historienne pour les mettre dans le contexte évidemment et pas les balancer comme si, puisqu'il n'y a aucune image qui a été réalisée. On aurait pu imaginer...
Même dans le ghetto,
absolument pas. Aucune photo. Alors, je ne sais pas pourquoi. Il y a énormément d'écrits, comme vous le savez, mais aucune image. Donc, si vous voulez, on a travaillé avec vraiment... c'était très, très difficile de travailler avec les images de propagande allemande. Donc, voilà. Mais...
Est-ce que ça a été justement une des raisons pour lesquelles vous avez fait l'impasse sur certains sujets ? Parce que sur, même avec 8 heures de documentaire, il a fallu certainement... je vois par exemple la situation des Juifs en Hollande ou en Roumanie n'est pas très présente dans le documentaire.
C'est... D'abord pour nous, comme le dit le cœur du judaïsme en Pologne a été anéanti. Donc, si vous voulez, c'est vrai que nous, on a été saisis par cet événement. Et c'est vrai que, évidemment, on aurait pu. On évoque les Juifs français, mais c'est vrai que dans l'immense. Matériel, si vous voulez, c'est vrai qu'on a dû faire des choix. Parce qu'il y avait des choses qui nous paraissaient essentielles à aborder. Donc, c'est vrai que. On n'a pas pu faire un travail tel un historien, c'est-à-dire, voilà, vous ajoutez encore une page et une page, et c'est un manuscrit qui fasse 500, 1000 ou 1500 pages. Voilà. Nous, on avait quand même des contraintes. Et surtout...
De temps, plus que de
temps.
De temps.
De temps. D'abord, on n'avait pas beaucoup de temps, ça paraît beaucoup, mais on n'avait pas beaucoup de temps pour réaliser...
Ce film en 8 épisodes. Je m'autorise d'ailleurs, c'est pas 8 films, c'est un film en 8 épisodes, si je peux me permettre.
Oui, bien sûr, oui, parce qu'il y a une construction très. Une véritable unité.
Donc.
Et comment on travaille 70 ans après la libération des camps sur la Shoah ? L'important pour vous, c'était de renouveler, on va dire, le regard sur le sujet en privilégiant l'avancée de la stéréographie ou alors de faire un récit le plus.
Je crois que la demande de France 2, c'était il faut que les jeunes générations puissent savoir ce qui s'est passé et que ça reste pas juste quelque chose de confus qu'on évoque parfois. Et donc, c'était vraiment leur demande de faire un récit qui reprenne tous les événements qui ont marqué la destruction des Juifs d'Europe. Donc, on a subi ça, mais on a décidé d'aller au-delà de 1945. De pouvoir évoquer aussi la fin de la guerre. D'accord. Enfin, bon, bref. Donc, c'était vraiment une demande de la chaîne, ça.
De s'adresser aux jeunes.
Faire un large film.
Jeune et large et grand.
Et si vous voulez aussi, c'est pour ça que nous avons privilégié certaines figures emblématiques du nazisme. Et nous ne sommes pas non plus... Il y a énormément de hauts fonctionnaires nazis qu'on n'a pas évoqués. Tout simplement parce que l'idée même, c'était de rendre cette histoire tellement compliquée, accessible. Et que personne ne soit noyé sous les dates et sous les noms. Voilà, de se dire, ah bon, maintenant on parle de fric, maintenant on parle de... Non.
Voilà, par rapport à votre question précédente, Blanche vous a répondu, et elle aurait pu rajouter aussi que on n'a pas oublié les pays périphériques par rapport au cœur du brasier, qui était la Pologne. Alors, Blanche et William ont fait un choix, ont évoqué les Juifs de Hongrie et les Juifs de Salonique. Voilà. C'était comme si ces deux pays en périphérie du chaudron mortel étaient emblématiques des autres pays qui n'avaient pas été évoqués. Si tu m'autorises à dire ça.
Tout à fait, complète, absolument ma pensée.
C'était une façon de dire, on ne peut pas parler de la Hollande, on n'a pas de place, de temps. Pourtant, c'est extrêmement important, parce qu'on n'a pas évoqué Anne Frank, qui est emblématique de quelque chose. Il y a des endroits qui n'ont pas été évoqués. On ne pouvait pas. Il aurait fallu, même pas 10, il aurait fallu 12 heures, et surtout un an de plus.
Un an de réalisation, vous voulez plus. Dire
Oui, parce que n'oubliez pas que nous avons une contrainte. C'est la contrainte du 70e anniversaire. S'il n'y avait pas eu cette contrainte, écoutez, et les radios, et les télés, et l'édition, toute forme de presse, en fonction, et même du coup, spectateurs, auditeurs ou téléspectateurs, on a de plus en plus un fonctionnement, on va dire, commémoratif. On fonctionne par des anniversaires. Mmh. À tort ou à raison, c'est un autre débat. J'aimerais un jour faire un débat là-dessus, parce que ça devient insupportable, tellement c'est excessif. Mais donc, on avait cette espèce de contrainte de temps de rendre la copie. On aurait eu un an de plus, 6 mois de plus. Oui, bien sûr.
Mais en l'occurrence, cette série-là, telle qu'elle est, je trouve que c'est ça qui est remarquable, et c'est certainement, à mon avis, ce qui est important, justement, quand vous parliez de ce public de jeunes, c'est que ça recrée une narration parfaitement compréhensible et qui met justement, voilà, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, de la conférence de Wannsee de 1942, qui finalement, en fait, n'est pas du tout un élément fondateur. Ça, en regardant la série, on le comprend véritablement. Ça, c'est un...
Mais je crois que le souci de William, qui était à la manœuvre, si vous voulez, puisqu'il montait, nous étions en salle de montage, et donc lui montait le film, c'était toujours de se dire, est-ce qu'en tant que spectateur, j'aimerais voir ce film. C'était un de ses soucis.
Et vous avez appris des choses ?
Énormément, énormément. Je veux dire, comme tout le monde, on en savait un peu plus, parce que nous, on avait travaillé il y a très longtemps sur l'arabe du Veldiv. On avait fait un des premiers films sur l'arabe du Veldiv, mais qu'avec des témoins. Après, on a travaillé ensemble. William avait fait les 50 ans de la commémoration de l'ouverture d'Auschwitz avec Contre l'oubli. Donc, c'est un sujet qui était... On ne débarquait pas en toute innocence. Mais évidemment, enfin... Tout au long, je veux dire, personne ne mesure l'ampleur de ce crime d'État. Et surtout, à quel point tout l'État allemand, enfin, entre guillemets, se lève pour suivre Hitler et suivre ses désirs.
Crime d'État, on peut même le mettre au pluriel.
État. Oui, alors... Pardon. Bien que c'est un aspect qui n'est pas forcément évoqué, en tout cas dans la première partie. En tout cas, je vous remercie beaucoup, Paul Rosenberg et Blanche Finger, d'être venus cette semaine. On vous retrouvera la semaine prochaine. Je rappelle que votre série de 8 documentaires, jusqu'au dernier, La destruction des Juifs d'Europe, qui a reçu le soutien de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, sera diffusée sur France 2. Donc les épisodes 1 et 2, le 26 janvier à partir de 22h20. Les épisodes 3, 4, 5 et 6 le mardi 27 janvier à partir de 20h50. Et les deux derniers, le 3 février à 22h55, mais nous en reparlerons la semaine prochaine. C'était Mémoire vive. Vous pouvez retrouver l'émission sur le web radio-rcj.info ou mémoirevive au pluriel.net.